franceinter.fr.
À la une de la science, les dernières grandes tendances du recensement de la population française.
La population française qui en 1800 formait le 6e de la population européenne est arrivée à n'être plus aujourd'hui que le 12e. Perte de nombre qui explique peut-être les pertes d'importance et de prestige. À ce rythme, que sera la France dans 100 ans ?
Archives de 1946, alors près de 70 ans après, où en est la population française ? Le pays comptait 66,2 millions d'habitants en 2015, soit une progression de 300 000 habitants en moyenne chaque année depuis 2010, ce qui représente 0,5%. Le recensement de l'INSEE permet aussi d'affiner cette évolution démographique et de mettre à jour une carte de France avec des dynamiques assez contrastées selon les territoires. On les décrypte justement, Agnès, avec notre invitée aujourd'hui.
Valérie Roux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du département de la démographie à l'INSEE. Quand on dit que la population française augmente de 300 000 habitants par an en moyenne entre 2010 et 2015, c'est une progression qui vous paraît normale, continue ?
Alors c'est une progression effectivement qui est similaire à celle des 20 années précédentes entre 1990 et 2010. Et c'est une progression qui est plutôt un peu supérieure à la moyenne des pays européens. Et qui surtout est porté par le solde naturel, donc par les naissances, l'excédent des naissances sur les décès, ce qui n'est pas le cas en Europe. En Europe, le solde naturel en moyenne est nul et ce ne sont que les migrations qui font augmenter la population.
Ah, donc ça se confirme, le taux de fécondité des femmes françaises est toujours plus élevé que la moyenne européenne, il est le plus élevé même de l'Union européenne.
Alors la France reste avec l'Irlande le pays qui a le taux de fécondité le plus élevé. Il a pourtant légèrement diminué puisqu'on est maintenant, l'année dernière du moins, on était à 1,9 enfants par femme. Et on va actualiser ces données en début janvier lors d'une conférence de presse.
D'accord, alors vous venez de parler de solde naturel, donc vous analysez l'évolution de la population dans les départements français selon ce critère et aussi le solde migratoire. Est-ce que vous pouvez juste repréciser ces deux notions ?
Oui, alors l'évolution de la population, c'est la somme du solde naturel et du solde migratoire. Le solde naturel, ce sont les naissances en France moins les décès en France. C'est l'accroissement automatique, on peut dire, de la population. Le solde migratoire, ce sont les arrivées en France moins les départs vers d'autres pays. Et donc ce sont ces deux composantes qui vont aboutir à une croissance. Et ces deux composantes vont jouer très différemment d'un territoire à l'autre, d'un département à l'autre, en étant parfois positif, parfois négatif, parfois l'un positif, l'autre négatif. Enfin, ça peut se combiner très différemment selon nos départements.
Oui, parce qu'on voit bien sur la carte de France, dans votre étude, que selon ces deux mesures, il y a des lignes de fracture assez différentes sur le territoire.
Exactement. En fait, le solde naturel est élevé en Île-de-France. On a quatre départements qui ont plus de 1% par an de croissance liée au solde naturel. Il est élevé en Guyane et il est élevé également autour des grandes métropoles, en fait, autour des grands pôles urbains.
Ça veut dire qu'il y a une population plus jeune.
Voilà.
Dire que dans ces régions-là, ce sont les naissances qui font augmenter la population.
En tous les cas, qu'elles y contribuent. D'accord. Qu'il y a plus de naissances que de décès. En revanche, le solde naturel est négatif, donc il y a plus de décès que de naissances dans le centre de la France et dans le quart sud-ouest. Là, c'est l'inverse. Du coup, on a un solde naturel négatif et qui parfois peut être compensé par un solde migratoire positif ou pas.
Parmi les départements les moins peuplés, hein, il y a la Lozère, les Hautes-Alpes, le Cantal, l'Ariège par exemple.
Oui, c'est ça. Et ces départements en fait, qui sont dans le centre de la France ont plutôt tendance à baisser en population et on voit se redessiner ce qu'on appelait la diagonale aride qui va du Limousin jusque vers le Jura. Qui, à un moment donné, dans les années 90-2000, avait réussi, par le jeu des migrations, à redevenir parfois légèrement positif. Mais là, on voit beaucoup de départements qui perdent de la population sur cette diagonale aride.
Et il y a des explications à ça ?
Alors d'abord, la première explication, elle est liée au solde naturel. La population est vieillissante dans ces territoires et comme elle est vieillissante, elle fait peu d'enfants. Et le solde migratoire n'arrive plus à compenser en fait un solde naturel qui est négatif dans ces départements.
Agnès ?
Ouais, alors ça c'est le solde naturel et sur le solde migratoire, donc la différence entre les personnes qui entrent dans un département et celles qui en partent, là c'est une autre ligne de fracture, hein, c'est d'autres oppositions.
Voilà, Alors, pour le solde migratoire, en gros, on a le nord et le nord-est qui ont un solde migratoire négatif, avec plus de départs que d'arrivées. Donc, lorsqu'on se place au nord d'une ligne allant de Seine-Maritime, Île-de-France, Jura, c'est négatif. En dessous, c'est positif.
Donc, c'est plus attractif.
C'est plus attractif. Il y a plus d'arrivées sur le territoire que de départs. Après, les départements les plus attractifs, ceux qui vraiment gagnent de la population par le jeu des migrations, vont se trouver le long du littoral atlantique, toute la façade atlantique, en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes, et un peu sur le bassin méditerranéen, mais là, le bassin méditerranéen perd de son attractivité par rapport à la période précédente. Et en Corse.
Et ces lieux qui sont attractifs, donc il y a aussi les grandes métropoles, elles le sont pour aussi bien les étudiants que les retraités ou les actifs. C'est toutes les catégories de la population.
Alors, ça dépend forcément des territoires, mais ce qu'on note, c'est qu'aujourd'hui, les départements qui sont très attractifs ont en leur sein ou à proximité un grand pôle urbain. Et dans ces pôles urbains, effectivement, on a de la formation. Et donc, ces pôles urbains attirent à la fois des étudiants, des actifs. Et puis, on a aussi maintenant de plus en plus une migration de retraités, avec la génération Papy Boom qui arrive à la retraite. Et ce qu'on constate dans les études, c'est que les retraités recherchent une qualité de vie, donc souvent le littoral, le soleil, mais aussi des services, et parfois donc se retournent vers des villes où ils vont pouvoir trouver des services.
Valérie Roux, j'ai une question sur la méthodologie. C'est-à-dire que ces chiffres datent de 2015. Hein, vous avez une évolution entre 2010 et 2015. On est aujourd'hui fin 2017 et vous nous donnez les résultats. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 ans? Qu'est-ce que vous avez fait? Vos ordinateurs ont mouliné pendant 2 ans pour nous donner tous ces résultats?
Alors, la méthode de recensement française est une méthode originale. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, on constitue un répertoire exhaustif de logements avec l'aide des communes. Et chaque année, on va interroger 8% de la population. Et pour constituer un chiffre, le chiffre de référence le plus précis possible, on va utiliser 5 années d'enquête, donc les enquêtes de 2013 à 2017. Et du coup, comme on utilise 5 années d'enquête, on ramène tout à l'année médiane, l'année du milieu. Et donc, nos chiffres sont en date de référence du 1er janvier 2015. Après, on peut faire des estimations au niveau départemental, régional et national, mais la population légale, elle a toujours 3 ans de décalage, parce que la méthode fait qu'on utilise 5 collectes.
Merci Valérie Roux de nous avoir renseigné sur ces derniers résultats. Et Agnès, à demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, faire de l'exercice aiderait à prendre soin de sa mémoire. Dans la revue américaine Neurology, des chercheurs publient leurs recommandations pour traiter les personnes atteintes de troubles cognitifs légers. Cette affection, qui touche environ 6% des sexagénaires, peut parfois dégénérer et provoquer, par exemple, des cas de démence. En croisant les résultats de plusieurs études, les chercheurs relèvent que les patients qui font de l'exercice 2 fois par semaine montrent des améliorations de leur mémoire. Une bonne nouvelle, puisqu'aucune étude ne prouve jusque-là l'efficacité de médicaments pour traiter ces troubles. Des restes de forteresses de l'âge de bronze retrouvés en Syrie du Nord. À l'aide d'images aériennes et satellitaires, une équipe scientifique franco-syrienne a mis en évidence un large réseau militaire fortifié datant de 4000 ans. Composé de tours, de fortins et d'enclos, il aurait eu pour vocation la surveillance et la protection des axes de circulation et des terres les plus attractives. L'étude publiée dans la revue Paléorient indique que chaque site était organisé de manière à faciliter la transmission rapide de l'information vers les grands centres de pouvoir via des signaux lumineux. Ce réseau longe le relief qui domine la steppe de Syrie centrale et s'étend sur une distance nord-sud de 150 km. Titan est-elle habitable? On le saura peut-être avec Dragonfly, un drone qui pourrait explorer une douzaine de sites sur cette lune de Saturne. Il s'agit d'un des 2 projets étudiés par la NASA pour ses prochaines grandes missions d'exploration spatiale. L'autre, César, viserait à rapporter un échantillon de la comète Curie précédemment étudiée par la mission Rosetta. La NASA doit trancher en 2009. Le grand gagnant fera partie d'une plus large série d'importants projets dans lesquels la NASA va investir 850 millions de dollars.